Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, merci. Bonjour à tous. Rebonjour. Alors, j'aimerais que nous abordions un sujet qui est très peu commenté par les prédicateurs. C'est un sujet un petit peu particulier, mais il fait partie de la Bible. Il est rapporté à la fois dans l'évangile de Matthieu, Marc. Alors, c'est intéressant parce qu'il s'agit d'un homme, vous allez le deviner, il a eu une destinée unique, comme beaucoup dans la Bible, hein, certainement, mais lui, il a été véritablement dans son sens. Vous allez le deviner, vous allez le comprendre, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, ça vous dit quelque chose? Et il a eu une mort cruelle et odieuse. Alors, nous voyons qu'il a payé le prix de sa vie, eh bien, le prix de son courage par sa vie, tout simplement. Et parce qu'il a eu l'audace de dire la vérité. Alors, il n'est pas le seul, hein. Il y en a eu à travers tous les temps et tous les siècles pour, finalement, eh bien, nous laisser un témoignage de consécration et de fidélité. Alors, c'est vrai que, je l'ai dit il y a un instant, il a marqué, il était en quelque sorte dans le no man's land, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il était le plus grand prophète de l'ancienne alliance, c'est Jésus qui le dit. Et il était peut-être le plus petit de tous les chrétiens parce qu'il ne savait pas encore que ce qu'il annonçait, c'était véritablement, eh bien, le règne messianique. Vous avez compris? C'est Jean-Baptiste. Alors, on va parler de Jean-Baptiste, non pas comme très souvent on en parle, c'est-à-dire le Jourdain, le baptême, et voilà, tout ce qui peut être, tout ce qu'il a pu faire, parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Et on peut dire qu'il a eu du succès puisque c'était des centaines et des milliers de personnes qui venaient auprès de lui. Mais j'aimerais ouvrir cette page tragique de l'assassinat, l'assassiné de Jean-Baptiste, parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait une constante dans le comportement humain, à travers l'opposition de ces hommes qui ont le pouvoir et qui font la guerre aux enfants de Dieu, qui ont fait la guerre à Jésus, parce que bon, on sait que après Jean-Baptiste, Jésus, lui aussi, a eu le même sort pour avoir dit la vérité. Mais on s'aperçoit que tous ceux qui ont osé dire et remplir la mission que Dieu leur a donnée, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ils ont fini tragiquement. Et ça, c'est pas si vieux que ça, parce que même encore dans notre monde aujourd'hui, il y a ce genre de choses. Alors, Marc, chapitre 6, et on va lire quelques éléments de cette parole. C'est vrai que il est intéressant on le lit comme cela, mais il y a tout un arrière-plan qui est très instructif de notre monde d'aujourd'hui, parce que, quoi qu'on en dise, notre monde s'est pas amélioré. Je ne voudrais pas être un prophète de malheur, mais quand même, sur le plan moral, alors je veux pas parler de la technologie, je veux pas parler de tout ces capacités extraordinaires que les hommes ont pu mettre en avant dans notre temps et dont nous sommes bénéficiaires, mais je voudrais parler de l'état moral du cœur de l'homme. Alors, donc, Marc 6, verset 14. « Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérodias était irrité contre Jean et il voulait le faire mourir. Mais il ne le pouvait car Hérode craignait Jésus, le connaissant pour un homme juste et saint, et il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume ?» Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison et il apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris ça, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. C'est horrible. Terrible, cette lecture. Mais vous savez que c'est un fait tellement constant sur notre terre. D'une manière ou d'une autre, couper la tête, c'est pas forcément d'une manière physique, mais ça peut l'être de tellement d'autres manières. Quand on a le pouvoir, qu'est-ce qui pourrait empêcher, finalement, de régler les problèmes de cette manière? S'il y a une leçon de toute première évidence ou d'importance à retirer, ce serait la suivante, et elle nous parle, dans ce sens qu'il est plus facile d'enchaîner ou de décapiter ou d'éliminer un gênant, quelqu'un, son prochain, que de briser ou de faire tomber les chaînes de nos propres passions. Voilà la leçon. Jésus a enseigné sur le sujet. Et on peut toujours dire que si j'étais à sa place, je ferais ceci, je ferais cela. Mais quelquefois, on va le voir d'une manière flagrante que notre Hérode en question, eh bien, c'est un homme qui est enfermé lui aussi dans une prison. Mais alors, à un niveau qu'on n'a peut-être pas à s'imaginer. Hérode, c'est le fils d'Hérode le Grand. Vous savez, celui qui avait fait tuer tous les enfants. Criminel et fils de criminel. On peut dire ça, et j'ose pas, c'est pas une insulte, c'est une vérité. Et nous voyons que un homme particulier, il était donc au pouvoir, il régnait sur une partie de la Palestine, c'est-à-dire la Judée et la Pérée. C'est-à-dire un petit, on pourrait dire un petit fief. Alors, la leçon que nous pouvons tirer, c'est que la passion rend fou. Et la passion rend fou. Et elle rend aveugle également. Parce qu'on peut toujours se donner de bonnes raisons parce qu'on est passionné, ou parce qu'on aime la passion. Ou parce que finalement, eh bien, nous avons là quelque chose qui nous tient tellement à cœur dans un sens ou dans un autre. Ça va dans le sens politique, ça va dans le sens peut-être de l'aide des autres. Ça peut aller dans le domaine naturellement du sentiment. La passion, elle revient souvent sous ce thème. Et on s'aperçoit que passion d'orgueil, passion de jalousie. Et nous voyons que ce fameux Hérode s'appelait Hérode Antipas. On le retrouve un petit peu dans... Alors, on va le présenter. On va dire qu'Hérode entendit parler de Jésus. Il aurait été difficile qu'il n'en pas en parler, puisque toute la Palestine était toute bruissante, nous pourrions dire, de ce que Jésus disait, de ce que Jésus faisait. Et puis, c'était colporté de bouche à oreille, et le monde de ce moment-là, les Juifs, étaient en émoi, on peut dire. Ajouter ceci, c'est que Hérode était un roi. Il était plutôt un roitelé, voilà, et il régnait sur un quart d'une partie de l'empire ou du royaume de son père Hérode le Grand. C'est-à-dire qu'il y avait les frères et ils s'étaient partagé cela et chacun faisait un petit peu dans son territoire et se prenait véritablement pour un roi. Et non seulement pour un roi, mais lui se prenait pour un grand roi. Et il marquera finalement par le festin, par ses grands, par ses militaires, qu'il est au-dessus des autres, qu'il est au-dessus de ses frères, d'une façon ou d'une autre. Et alors qu'il n'avait aucune souveraineté, c'était l'Empire de Rome qui avait mis là, comme ça, pour essayer de contenir les révoltes en Palestine. Il avait mis dans la dynastie, il avait choisi dans la dynastie des Hérodiens. Et bien là, les frères, il les avait mis là en disant, ils vont peut-être se calmer et puis on aura au moins une province en paix. Aussi, sont parfois tout ça, tous ces petits ambitieux hein, qui gravitent de droite et de gauche, qui s'imaginent être grands et également puissants. Et il n'y avait rien de royal chez Hérode. Il était faible, il était voluptueux, il était vénal, l'argent, il était vaniteux et c'était un débauché. Alors avec ça, vous allez loin. Hein? Ça, c'était ce qu'on peut dire. Et c'est les commentateurs de l'époque, je pense à Flavius Joseph, hein, qui était l'historien des Juifs, qui présente les Hérodes, qui présente aussi beaucoup de choses de l'histoire biblique, de l'histoire évangélique. Il y avait dans son royaume à Hérode un sujet. Il y avait quelqu'un. Donc un sujet qui était bien inquiétant. Et pourtant, il lui fallut tout simplement l'entendre, ce sujet, pour entendre que les paroles qu'il tenait, les discours, c'était un message de paix. C'était un message d'apaisement. C'était un message qui proposait la joie et le bonheur aux hommes. Et ce sujet-là, c'était Jésus. Jésus de Nazareth. Dont, le texte nous dit, dont le nom était devenu célèbre. Célèbre. Parce que il était l'envoyé de Dieu. Parce qu'il était le Messie pour les Juifs aveugles. Bien qu'ayant la connaissance, il ne comprenait pas, et il ne voyait pas, et il ne voulait surtout pas entendre. Et ça, c'était quelque chose qui rentrait en conflit avec le petit peuple, qui avait un cœur simple et qui s'attendait à l'avènement et la consolation d'Israël. Et puis les notables, y compris dans le pouvoir politique et le pouvoir religieux, qui eux, eh bien, attendaient d'une autre manière ou n'attendaient rien peut-être. Alors, le phénomène Jésus ne pouvait pas forcément passer inaperçu jusqu'à la cour du roi Hérode, et on parlait beaucoup naturellement. Alors, pourquoi cet intérêt pour un vulgaire galiléen qui allait de lieu en lieu et qui faisait des miracles, qui apportait une parole tellement déconcertante, qui n'avait rien à voir avec la parole que l'on entendait dans le temple ou dans les synagogues. C'était tout à fait un autre langage. Alors, il était étonné, Hérode. Il dit, moi, on m'écoute pas, je suis le roi, je veux qu'on m'écoute. Et il disait, mais comment se fait-il que mon peuple court après ce prédicateur-là, ce prophète, cet imposteur, que lui, on l'écoute et moi, on m'écoute pas. Vous savez ce que ça suscite, ça? Ça suscite de la rivalité, de la jalousie. Et ça, c'est le fond sur lequel, eh bien, toute l'histoire est bâtie. La vraie raison de la crainte d'Hérode, la voici. Il nous est dit qu'il se disait en lui-même, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il se fait des miracles. Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Alors, là, vous avez un aveu d'assassinat, hein, que j'ai fait décapiter. Vous pouvez pas dire que c'était quelqu'un d'autre. Et il associe l'histoire de Jésus avec l'histoire de celui qui l'avait fait mettre à mort. Il se dit, mais c'est pour dire que la confusion est grande, hein, quand on a perdu la boussole. On ne sait plus, c'est Jésus, c'est Jean-Baptiste, c'est Jésus, je ne sais plus. Il ne savait plus du tout. Hein. Et il y a derrière toute une attitude psychologique, une attitude anxiogène, si on peut dire comme aujourd'hui, une attitude d'angoisse chez Hérode qui le fait trembler. Il a peur. Hérode, depuis ce sinistre jour où il avait donné l'ordre que nous avons lu tout à l'heure de couper la tête, eh bien, à Jean-Baptiste, souffrait d'une insomnie permanente. Vous savez ce que c'est de pas dormir? Déjà, quand on a un petit moustique dans la chambre, c'est terrible. Mais là, c'était plus qu'un moustique, hein. C'était quelque chose de colossal. Et nous voyons qu'il ne pouvait pas dormir, il était tourmenté jour et nuit. C'était une véritable torture, et sa conscience était complètement bouleversée. À chaque fois qu'il y avait un rapport avec Jésus, un rapport avec des miracles, un rapport avec des paroles tout à fait particulières, ou qu'il recevait les autorités religieuses, à chaque fois ça le mettait en l'air. C'était un malade. C'était un homme qui était complètement aux aguets. Il était... En quelque sorte, permettez-moi, il n'avait pas seulement fait mourir Hérode, Jean-Baptiste, il s'était fait mourir sans le savoir lui-même. Et on va voir un petit peu ce que ça peut avoir. Et nous voyons que tourment de conscience. Il y avait des souvenirs, et il avait des souvenirs qui ne s'effaceraient pas de sitôt, parce que quand on connaît l'histoire subséquente d'Hérode, c'est un homme tourmenté jusqu'à la fin de sa vie, où l'empereur de Rome l'a complètement exilé, et tout ça, il est resté avec ça. Il est resté alors après vraiment dans l'oubli. Toutes les justifications et excuses qu'il pouvait se donner, rassurantes, même pour un roi, parce que le roi ne fait pas exception par rapport à ce que le simple du peuple, eh bien, n'y pouvait rien. Et de là, finalement, eh bien, il sombrait dans des hallucinations et dans la superstition. Ah, on le voit dans la manière, j'ai fait mettre à mort Jean-Baptiste. Et là, il est prisonnier de quelque chose qui va être terrible. C'est le tourment, c'est l'angoisse, c'est l'obsession. Obsession dans son cœur sentiment, obsession dans son âme, obsession dans ses pensées, obsession dans son intelligence, obsession dans sa conscience. Et nous nous apercevons que il vivait avec ça. Jean-Baptiste est ressuscité. Il est revenu dans la personne de Jésus. Ben, Jésus, c'est Jésus, Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste. Vous savez, ça l'avait complètement confondu, hein. Hérode, il ne savait plus du tout où il était. Remarquez, il faut dire qu'il avait fait quelque chose qui était terrible, hein. Que ce soit Jésus ou que ce soit finalement Jean-Baptiste, c'est terrible. Parce que les mobiles qui sont derrière, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est la méchanceté. Et ça, on sait d'où ça vient, ça peut pas venir de Dieu. Ça vient d'ailleurs, naturellement. Jean-Baptiste est ressuscité. Et il avait peur. Un mort qui ressuscite, vous rendez compte? C'est quelque chose. Alors, il s'était enferré dans l'endurcissement et dans tout simplement l'incrédulité, et ça s'allie fort bien avec la superstition. Il était tombé comme, en quelque part, prisonnier de toutes sortes de sortilèges, toutes sortes de choses, et son imagination dévoyée, eh bien, échafaudait toutes sortes d'hypothèses, toutes sortes de rêves qui étaient plutôt des cauchemars. L'histoire est résumée, et je vais relire à travers le verset 17, il est dit « Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui avait dit « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, et il le protégeait après l'avoir entendu. Il était souvent perplexe. Et l'écouter avec plaisir. » Alors nous avons quelque part là quelque chose qui va nous donner de nouvelles indications. Il y a l'arrestation de Jean-Baptiste, il y a l'emprisonnement d'un homme juste et courageux. Et tout cela, si vous me permettez l'expression, vous n'y verrez pas au-delà, mais pour les beaux yeux d'une femme dont Jean était complètement étranger. Hein. Mais il y avait le pouvoir entre les deux. Il y avait le pouvoir qui allait faire la différence, tout simplement. Hérodias. Elle s'appelle Hérodias. C'est le même nom qu'Hérode, ou Hérodon, si vous aimez mieux. Hein? Il est question de beauté de la peau. Alors, ils avaient peut-être une belle peau, mais l'intérieur, c'était pas tout à fait le même reflet. Hein? C'est ça ce que ça veut dire. Vous regardez dans le dictionnaire. Hérodias, Hérode, Hérodion, beauté de la peau. Ah oui, l'apparence. C'est pas pour rien que les choses sont écrites dans la Bible. Vous savez, les noms qui sont donnés, ils ont une juste signification. Alors, c'était pour une histoire qu'il y ait Hérode dans une situation illégitime. Et notre brave Jean-Baptiste qui ne mâchait pas ses mots, si vous vous souvenez de son baptême là auprès du Jourdain, mais je pense qu'il a dû le dire avec la référence que l'on doit à un roi. Ça n'a pas été une injure, mais ça a été tout simplement la dénonciation d'un état de fait que tout le monde dans le royaume connaissait, dans le palais, tout le monde connaissait ça. Alors Jean-Baptiste, au risque de sa vie, va rappeler à un roi, tout simplement, certains principes moraux des plus élémentaires, parce que, comme c'était de notoriété publique, Hérode avait répudié sa femme légitime, qui était la fille, une princesse dont son père était Arétas. Vous retrouverez ça dans le livre des Actes. Et il l'avait répudiée pour convoler en juste noce, enfin juste le mot est peut-être un petit peu abusif, mais pour convoler avec sa belle-sœur, c'est-à-dire la fille de son frère, Philippe. Philippe, Hérode Philippe, tout simplement. Et voilà la faute d'Hérode. voler une femme à son mari. Bon, remarquez, vous savez, il y en a eu depuis, hein. C'est pas le premier coup que l'on voit, mais un mal, et pour vous dire maintenant qu'un mal couvre toujours quelque chose de plus grand encore. Ça, c'est le premier pas, bien que c'est, nous pourrions dire, tout l'engrenage de cet assassinat, de cette insulte faite à Dieu à travers la mort d'un de ses serviteurs. Quelquefois, on évoque, et je l'ai entendu, Dieu est saint, Dieu est juste. Il n'arrive rien à ses serviteurs. Ouais, c'est vrai. Jésus nous a fait la promesse, il ne tombera pas un seul cheveu de votre tête sans que la volonté de votre Père qui est dans le ciel ne le permette. C'est vrai. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu qu'il ne peut pas, quelque part, dans le cours du ministère, ou dans notre engagement, dans la proclamation de la vérité, nous arriver aussi des choses difficiles. On le voit encore de par le monde, nos missionnaires qui vont dans certaines contrées, qui vont s'exposer dans des pays extrêmement dangereux, eh bien, en font les frais. Et l'histoire de l'Église, à travers tous les siècles, est pleine de gens qui ont été martyrisés et qui ont été mis à mort. Et encore aujourd'hui, au moment où je vous en parle, il y a ce phénomène. Alors, n'essayons pas de comprendre l'incompréhensible. Il y a des choses qui sont comme ça. C'est tout. Et c'est ce qui va arriver naturellement à notre brave Jean-Baptiste. Oh Jean-Baptiste, oh Hérode, dans la même lignée que David, il n'est pas arrivé un petit peu la même chose à David. Mais David a la différence, c'est que David, quand le prophète Nathan est allé le voir, il a dit une chose. J'ai péché. Terminé. L'affaire est réglée. Nous voyons une situation de difficulté également entre Achab et Jézabel. C'était un couple magnifique qui s'employait à tuer. Et il y en a eu d'autres hein, dans l'histoire. Mais bon, c'est simplement pour ramener, parce que finalement, on se dit, c'est pas un cas d'exception, hein, hier et encore aujourd'hui. La haine produite par le désaveu chez Hérodias, parce qu'elle n'était pas contente. Bon, lui, Hérode, il a pris ça en pleine tête. Voilà, bon, d'accord, tu as fait ça et ceci et cela. Bon, il a essayé de surmonter, de reprendre un petit peu d'air à la surface. Mais Hérodias, ça lui avait vraiment pas fait plaisir. Imaginez-vous, hein. De quoi tu te mêles, toi? De quoi tu t'occupes? Et il nous est dit que irrité, et quand il est dit irrité, moi je pense qu'elle était courroucée, elle était en colère furieuse. Hérodias voulait le faire mourir. La première réaction qu'elle a eue, c'est pas de demander des explications ou de présenter quelques excuses et de dire et d'avouer et de reconnaître qu'il y avait un tel état, mais c'est de vouloir le faire mourir. Première chose, c'était catégorique, absolue, comme la guillotine. Paf, ça tombe. Ouais, faire mourir. C'est pour vous dire que les sentiments des hommes lorsqu'ils sont jaloux, lorsqu'ils sont remplis d'envie ou qu'ils sont remplis d'animosité ou d'inimitié, souvent c'est la mort. La mort. Elle voulait le faire mourir. Quand le mal dénoncé ne produit pas un abandon immédiat, il n'est pas rare, quand il est conservé, qu'il engendre un implacable désir de vengeance. C'est pourquoi Paul nous dit dans une de ses épîtres que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable, parce que vous savez ce qui peut arriver naturellement. Jean-Baptiste avait, entre guillemets, contrarié la passion et l'ambition d'Hérodias. Et elle se dit, ça passera pas comme ça. Je suis reine, mon mari est le roi, et on va lui montrer de quel bois nous nous chauffons tous les deux. Façon de parler. Vouloir la mort de quelqu'un parce qu'il vous a dit la vérité. C'est terrible, hein? C'est dur, hein? Vous savez, tous ceux qui ont été très courageux dans les dernières, je pense à la dernière guerre, hein, contre le nazisme, et qui ont eu à dire les choses. Il n'y a pas eu beaucoup de survivants, hein, je peux vous le dire, hein. Parce qu'il fallait les éliminer. Quand on tue un homme, il ne parle plus. Voilà. Mais vous savez que le sang des martyrs parle plus fort encore que tout le reste. Et c'est, je crois, Augustin qui nous dit qu'il est la semence de l'évangile. Ouais. Jésus nous le dit, hein. Si vous voulez les faire taire, c'est les pierres qui crieront. Et remarquez, depuis 2000 ans, ça continue à crier, hein. Hey, on ne fait pas taire l'évangile. On ne fait pas taire la vérité, quoi qu'il en dise. C'est une illusion pour ceux qui le pensent, hein. Alors, beaucoup, comme Hérodias, ne veulent pas entendre ce qui leur plaît et les confortent dans leurs erreurs. C'est ça le problème. C'est ça la grande difficulté. Et pourtant, il y a des redoutables paroles quand il est dit « malheur à celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup ». Ça, c'est dans le livre des Proverbes ou d'Ecclésiaste. Oui, malheur à celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup. Il sera brisé spontanément, promptement et sans remède. J'aurais quand même vous le dire au passage, moi je l'ai vu dans mon ministère. Ouais, je l'ai pas vu souvent, heureusement, mais je l'ai vu. Des gens qui, devant des choses patentes, où on leur dit une chose, pour les préserver, pour les garantir, et de dire, eh bien on y va quand même, même s'il faut passer par les portes et les fenêtres et forcer sur les murs, eh bien on passera. Ah ben ils sont passés. Mais quelquefois ils sont passés de l'autre côté aussi. C'est terrible, hein? C'est terrible. Alors, écouter les avertissements, c'est important. C'est faire la preuve d'intelligence et de l'humilité. Heureusement qu'il y a parfois des retenues pour enrayer momentanément la méchanceté humaine. Il nous est dit que Hérodias, ayant appris la situation, elle ne pouvait pas, parce que c'est le passage, hein, il nous est dit que il ne t'est pas permis d'avoir la femme, etc., etc., mais voilà. Il ne lui était pas permis. Dieu avait mis un frein quelque part parce qu'il y avait Hérode qui était là et Hérode craignait Jean-Baptiste. Il était pourtant le roi. Mais il a eu déjà quelques contacts avec lui. Il le reconnaissait comme un homme juste et saint. Et ça, c'est toute l'ambivalence d'un cœur faible, d'un cœur qui ne sait pas trancher. Pourtant, normalement, un roi est susceptible de juger. Et c'était l'autorité et la droiture de vie de Jean-Baptiste qui imposaient le respect à Hérode. Droiture et justice de vie, je voudrais l'ajouter, mais sans puritanisme. L'évangile n'est pas du moralisme, mais c'est une valeur. Sûr, pas du puritanisme. Quand il lui a parlé de son adultère, c'était pas du puritanisme non plus. C'était un fait, tout simplement. Celui qui est habitué aux turpitudes, à toutes sortes de combines, sait reconnaître d'instinct dans la vie des autres ce qui ne va pas dans la sienne. Et ça, c'est assez comique. Enfin, si l'on peut dire. Ouais. On sait regarder ce qui se passe chez l'autre, mais quelquefois, nous sommes profondément aveugles. Eh oui. D'ailleurs, Jésus le dit, et il le dit pour nous. Il le dit pas pour les autres, il le dit pour nous. Gardez-vous de juger, hein. Parce qu'attention, ça dépend de la manière dont tu vois les choses. Et faut être prudent, parce que si dans d'autres circonstances ou dans les mêmes circonstances tu te trouves peut-être dans une difficulté, là où tu as jugé impitoyablement, d'une manière arbitraire, et que tu as condamné, peut-être que ça va t'arriver toi aussi, pour t'apprendre la leçon qu'il ne faut pas juger. Tout simplement. Il nous a dit qu'Hérode protégeait Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui faisait qu'il le protégeait? C'était tout simplement sa superstition. On peut dire ça. Sa superstition l'amenait à penser que s'il ne faisait pas cela, s'il n'avait pas quelques égards Jean-Baptiste dans sa prison, qui lui faisait quelques bienfaits, eh bien, cela lui porterait malheur. Mais où on est là? Un chrétien qui deviendrait superstitieux? C'est pas possible. Eh oui, et quelquefois nous avons encore des vieilles réactions de notre ancienne vie en disant, ben voilà, ceci, cela, on négocie pas avec le Seigneur. C'est des choses complètement ineptes, ça n'a pas de sens. Et c'était sa façon de penser parce que c'était un superstitieux. Il avait le sens un petit peu d'une mauvaise crainte. Il aurait mieux fait de craindre carrément ce qu'il était et puis ce qu'il avait fait, hein, tout simplement. Alors on pourrait dire, il entretenait bien Jean-Baptiste, tout simplement. À tel point qu'en entendant Jean-Baptiste qui lui parlait, il était souvent perplexe et il l'écoutait avec plaisir. Ça nous rappelle un autre procurateur qui a dû instruire l'affaire de Paul. Vous savez, il s'appelait Félix, pas le chat. Félix, ouais. Et il nous a dit qu'il faisait souvent venir Paul pour l'écouter dans l'espoir que Paul lui donnerait un peu d'argent vénal. Ouais, intéressé. Et quand Paul a poussé un petit peu plus sur le bouton, en lui parlant de la tempérance, en lui parlant de Dieu, en lui parlant de la résurrection, en lui parlant de du monde à venir, alors Félix a dit, moi maintenant tu restes dans ta prison, je ne veux plus t'entendre, hein. Terminé. Eh oui, la vérité dérange, et elle est vraiment, c'est un problème. Perplexité, parce que son cœur était tiraillé entre ses passions et la justice, tout simplement. Et ça, c'est terrible. Preuve que sa conscience n'était pas tout à fait éteinte. Eh oui. Moi, ça me fait penser au petit lumignon, vous savez, sur lequel Jésus veut souffler dans toute âme humaine. Ouais. Elle n'est pas encore éteinte, cette petite, ce petit lumignon. Et peut-être, nous avons besoin d'en prendre compte, en tenir compte nous-mêmes. Le Seigneur et le Saint-Esprit soufflent pour que nous puissions reprendre, eh bien, pied, alors que nous sommes embarqués. Parce que, vous savez, je voudrais vous dire, quand on ment, on ne trompe pas seulement les autres. Je voudrais vous dire d'abord qu'on ne trompe pas Dieu. Mais on se trompe soi-même. Et là, quelquefois, il y a besoin d'un petit souffle, ou d'un grand souffle, pour nous ramener, eh bien, tout simplement à la réalité. Alors voilà, son âme, sa conscience n'était pas éteinte. Et on peut se demander, mais quel plaisir pouvait trouver Hérode à avoir à entendre les discours de la vérité, puisque finalement, eh bien, il y manquait l'essentiel, c'est y croire et changer de vie. On peut entendre l'évangile pendant 100 ans, pendant 200 ans, c'est un peu beaucoup, mais on peut venir à toutes les réunions, mais quand on n'est pas disposé à y croire et véritablement y engager notre vie, ça ne sert à strictement à rien. Strictement à rien. C'est comme ça. Et c'était le problème d'Hérode. Il se donnait une bonne conscience, peut-être, auprès de ses chefs, de ses ministres, etc. Je vais prendre consultation avec Jean-Baptiste. Je vais le voir en prison. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que j'ai une grande âme, moi, Hérode, hein? Tu parles. Ça, c'est sûr que quelque chose, hein. Alors, c'était un indécis. Quand il était du bon côté, il disait oui. Ah, oh, il a raison, Jean-Baptiste. Et quand il écoutait Hérodias, oh, mais tu as raison, ma chérie, c'est formidable ce que tu es en train de me dire. Puis là, il oubliait Jean-Baptiste. Déchirement, indécision. Et comme il existe toujours, il en existera toujours, des situations qui vont plus loin que ce que l'on peut penser, ce que l'on voudrait, eh bien, ça nous échappe, et c'est ce que nous dit le verset 21. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Voilà. Permettez-moi de vous dire que pour le diable, il y a toujours un jour propice. Pour nous les chrétiens, il y a un temps favorable. Vous comprenez la nuance? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1er. Un jour propice. Propice à quoi? Propice aux mortes? Propice aux crimes? Un jour propice. C'était l'anniversaire d'Hérode. Alors, je ne sais pas qui est le prochain sur la liste pour l'anniversaire. On est combien aujourd'hui? On est le 11? Il y en a qui sont nés au mois d'août, là? Personne ne répond parce que vous ne voulez pas offrir le gâteau. Non, non, mais toujours est-il. Imaginez-vous, jour d'anniversaire d'Hérode. Et pour dire simplement qu'il y a des fêtes mondaines. Moi, je ne suis pas un rabat-joie, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Mais il y a des fêtes mondaines qui sont des fêtes du diable, hein. et qui sont très recherchées d'ailleurs, hein. Excusez-moi le mot très, il n'est pas excessif, mais enfin peut-être qu'il est osé, hein. Diable, le mot du diable, hein. D'accord? Alors, à travers des festins, à travers l'alcoolisation, on peut dire ça comme ça, le relâchement, dont on tire une vanité, un honneur à travers des flatteries et la gloriole. Et on se dit, ben voilà, t'es le plus beau, t'es le plus grand, parce que c'est le jour de ton anniversaire. Bon, quelle histoire. C'est vraiment très réduit, hein. C'est véritablement petit, me semble-t-il. Et tout est réuni ce jour-là, dans ce jour propice, pour qu'Hérode, qui à ce moment-là fait le fort, c'est son anniversaire, vous rendez compte, et en plus il est roi, soit révélé comme tel, c'est-à-dire comme un faible. Là, il va être vu devant tous. Il a dit, voilà, je réunis toute ma cour pour qu'ils voient que je suis leur roi et que je suis puissant. Et là, tout le monde va voir que c'est un faible. Ça a complètement dérapé son histoire. Et c'était pas prévu au programme, mais c'est ce qui s'est passé. pour nous rappeler que la force d'un homme, tout simplement, et qui fait son honneur et sa gloire, n'est pas comme on a l'habitude de le voir, ce n'est pas sa position, ce n'est pas son intelligence, ses talents, son prestige, mais la vraie force d'un homme réside dans la volonté de savoir dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Et ça, c'est pas une partie gagnée, hein, c'est pas facile. On est tous confrontés à ça, à ce choix. Oui quand c'est oui, non quand c'est non. Ouh, c'est terrible. Hein. Alors il y a des choses qu'on sait dire non, hein, puis des choses on sait dire oui. Mais quelquefois, il y a des situations tellement importantes, parce que là, c'est la vie d'un homme qui est en jeu. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être courageusement, là, debout devant tout le monde, et Hérode en dit non, 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 moi, Jean-Baptiste, je tiens pour un homme de Dieu, je n'y toucherai pas. Ou alors, ben, c'est le contraire qui s'est présenté à ce moment-là. Que de faiblesse secrète quand il s'agit de ménager sa réputation, sa promotion, et puis de vouloir sauver la face. C'est ce qui se passe. Et puis voilà que, dans le cours de la fête, il y a une jeune fille qui fait son apparition. Jeune fille, adolescente, magnifique, très belle, innocente, pure, je pourrais dire. Oui. C'est la fille d'Hérodias, ce que Flavius Joseph, l'historien, a appelé Salomé. Bon, c'est pas écrit dans la Bible, mais bon, elle est restée dans ce nom, tout simplement. Et puis, cette jeune fille, éblouissante, est entrée dans la salle devant tout le monde et elle a dansé, comme c'était certainement la coutume à ce moment-là. Et tous, hommes et femmes, particulièrement les hommes, n'avaient Dieu que pour elle. Voilà, elle était magnifique. Vous savez que l'adversaire, il fait briller certaines choses, hein, des choses qui ont une valeur tout à fait commune et normale, mais là, il est capable d'ouvrir les yeux et de nous faire voir au-delà. De nous éblouir. Parce que c'est un prestidigitateur. C'est un magicien, on peut dire. Et là, nous voyons que elle est venue avec tous ses charmes de jeune fille, tout simplement. Elle a dansé. Et elle a, sans probablement le vouloir, elle a fait tourner la tête. C'est comme cela que l'on dit. Et elle a causé un désastre irréparable. Je dis bien irréparable. Elle ne fait que traverser la fête, quelques minutes, mais elle ne passe pas inaperçue. Immédiatement, elle fascine tous les regards. On ne regarde plus Hérode, en soufflant ses bougies, il continue à souffler tout seul, et on ne regarde plus sa mère, mais on regarde maintenant cette jeune fille. Je voudrais ajouter ceci, c'est que Salomé est le type de la jeune fille mondaine, insouciant et qui découvre les plaisirs d'un monde léger et corrompu. C'est comme ça qu'elle a toujours été présentée dans l'histoire biblique. Voilà. Elle n'y est pour rien. Elle se trouve là dans ce milieu-là. Elle a grandi dans ce milieu-là. On l'a peut-être protégée, mais là, ce jour-là, elle va avoir la révélation de ce qu'est capable les hommes de puissance, ce qu'un homme est capable de faire avec sa puissance et son autorité dévoyée. Elle va le voir. Elle ignore tout, cette jeune fille, du sordide asservissement d'Hérode à ses passions, elle ne le sait pas. Elle ne sait rien non plus, ni même des profonds ressentiments de sa mère contre Jean-Baptiste. Elle ne le sait pas. Elle se présente, elle est innocente, et elle va faire finalement eh bien, tout l'enjeu de cette situation. Comme quoi, notre tête sur nos épaules, elle est fragile. Hein. La preuve, sur un désir, sur une fantaisie, sur un caprice, parce que les choses sont ainsi. Alors au son de la musique et des danses, elle va glisser là, dans le grand jeu ou dans le jeu des grands qui vont l'admirer. Et son charme va faire le reste. Et le reste, on va le voir, parce qu'il va y avoir un tragique destin, et son destin à elle, mais comme le destin de certains, qui sont sans le savoir, et qui vont laisser derrière eux, tout simplement, du sang, des larmes et des remords. Attention, quand Jésus nous dit de lui demander ou de demander à Dieu qu'il nous donne le discernement, ce n'est pas pour rien. Soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. On peut tous se faire prendre au piège sans y avoir pensé auparavant. On s'est tous fait avoir à un moment ou à un autre. Il faut faire gaffe, parce que quelquefois, ça vient sous l'aspect d'une pseudo-spiritualité. Et c'est là où le diable, où l'ennemi, va nous séduire, il va pas nous prendre, voilà, avec des choses grossières. Mais, en se servant de l'évangile d'ailleurs, comment le diable, dans les 40 jours de Jésus au désert, comment l'a-t-il séduit? Enfin, comment a-t-il tenté de le séduire, plutôt? En se servant de la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es ceci, si tu es cela, regarde. Voilà, trois propositions, Jésus a dit. Il n'en est pas question. Et là, c'est pareil hein, pour nous, faisons attention. Parce que quelquefois, il y a le contexte, il y a l'ambiance, il y a tout un monde autour de nous qui peut nous faire finalement déraper. Il faut faire attention. Je voudrais dire un mot sur le rôle de la femme, la mission de la femme, si vous me le permettez, j'espère que je vivrai à la fin du culte. Faites-moi grâce, hein, je suis grand-père, je voudrais voir mes petits-enfants grandir quand même. Hein. Alors, la femme a été donnée à l'homme pour aide et inspiratrice. C'est vrai? Mesdames, c'est un insigne privilège hein, que vous avez. Elle a le pouvoir de protéger l'homme ou de le compromettre. Maintenant, le rôle principal, c'est de protéger aussi sa femme. Hein, la femme. De l'élever ou de l'avilir. Elle peut avoir un rôle dangereux de tentatrice ou suscitant toutes les convoitises, c'est le cas. Par le moyen de sa fille, habilement, Hérodias va entacher à jamais le nom de l'homme qu'elle prétend aimer, c'est-à-dire Hérode. Parce qu'elle va le tuer là aussi. C'est une forme d'assassinat moral, en quelque sorte. Et empoisonner la conscience à vie de cet homme qu'elle aime pour le reste de ses jours. Et tout ça pour une sournoise inimitié ou une implacable vengeance. Ah, c'est de la bouche, c'est du cœur que la bouche parle. Hein. Vous vous souvenez les bonnes et les mauvaises paroles, on avait vu ça, on avait étudié la question. Hein. Ben, si ton cœur est bon, il donnera de bonnes paroles, mais si ton cœur est mauvais, il donnera de mauvaises paroles. Ça c'est clair, c'est... On peut pas faire autrement, c'est comme cela. Alors, une proposition ainsi considérée qu'imprudente. Le roi est venu vers la jeune fille qui avait bien dansé et il lui a dit « Demande ce que tu voudras » et il ajoutera, il n'est pas bien, hein, et il ajoutera « ne fût-ce aussi la moitié de mon royaume ». Il avait déjà un mouchoir de poche, il va se retrouver à Monaco là, la prochaine fois. Hein. Eh oui, la moitié de mon royaume. Il était déjà coupé, le royaume de son père était déjà coupé en quatre. Et là maintenant, il fallait le partager encore en deux. Il n'était pas bien. Comme quoi, vous savez, quand les gens ont perdu la raison, ils font n'importe quoi. N'importe quoi pour assouvir leur folie, tout simplement. Et il l'a dit avec serment. Mais vous savez, quand les choses sont dites, elles sont peut-être... Elles disparaissent peut-être dans les oreilles de certains, mais il y en a toujours des oreilles qui attendent. Hein. Et des oreilles qui sont prêtes à ramasser les miettes et les morceaux. Alors, voilà un homme, en parlant d'Hérode, qui est tout prêt à vendre son âme et à liquider sa vie. Un roi qui va devenir un esclave. C'est comme cela, hein? C'est pas normal. Mais il va devenir un esclave de lui-même. Le verset 24, et je termine. Il est dit, tout simplement, alors... Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère lui répondit, aussitôt, hein, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit la demande, je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Ah. La haine mortelle tapie dans le fond du cœur attend le moment favorable. Qu'est-ce que je vais pouvoir demander? Quel épouvantable cadeau pour une jeune fille. La tête sanguinolente d'un homme qu'on vient d'exécuter. Mais écoutez, c'est terrible une chose pareille. Vous savez, dans notre temps, nous sommes maintenant et nous apprenons nos enfants à voir des spectacles qui sont horribles, abominables. Vous savez, ils sont habitués à voir du sang couler, hein. Mais ils le voient à travers un écran. Ils ne savent pas ce qui peut se passer, par exemple, en Syrie, où là, c'est pas du cinéma, hein. C'est de la réalité, hein. Mais vous savez qu'on est en train de préparer un monde où il va y avoir une insensibilité à la violence, au mal, au crime, au meurtre, au sang et toutes sortes de choses. C'est un jeu. Et c'est grave. C'est très grave. Et là, il s'agit d'une enfant qui va être manipulée habilement de haute main pour qu'elle aille demander au roi, eh bien moi je veux la tête de cet homme. C'est pas elle qui l'a demandé, c'est sa mère qui lui a fait demander en récompense d'avoir bien dansé. C'est fou. Elle s'empressa de rentrer aussitôt eh bien vers le roi. C'est une folie meurtrière. Et elle s'exprime par la précipitation évoquée, s'empresser aussitôt, et elle dit à l'instant, je veux la tête de Jean-Baptiste. Combien se sont fait prendre au piège du mal, du péché, de l'iniquité, des choses abominables, ivres de vin, de volupté, de fausse gloire, ou plus tristement encore, soi-disant pour s'amuser. Il y a des jeux dans notre monde, jeux d'adultes et jeux de jeunes, qui quelquefois se terminent par des drames. On joue. Excusez-moi l'expression, c'est très très trivial, mais c'était pour rire. Vous savez, dans les cours d'école où les enfants prennent des foulards, et c'est pour rire. Ah ouais. Ou alors s'amuser à se stranguler, là, vous savez, en se pendant. Ou à travers toutes sortes de choses. Ou se scarifier, par exemple, les bras et les jambes, ou le torse. C'est pour rire. Quand l'homme a perdu la tête, il est capable de faire n'importe quoi. Il est fou. Il est animé d'une folie. Et c'est terrible. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Alors on fait une soirée, on ne peut pas se passer de boire, prendre de l'alcool. Alors on va boire outre mesure et quelquefois, vous allez le soir après 22 heures sur les plages à Saint-Nazaire. Vous allez voir les groupes de jeunesse qui sont là, groupes d'étudiants ou de, je ne sais pas. Vous allez voir, ils viennent avec des piles de bière et d'alcool et de jus de fruits et toutes sortes de choses, ils mélangent tout. Je peux vous dire qu'ils sont comme les vagues après. Hein. Ça va dans tous les sens. Hein. C'était pour rire, c'était pour s'amuser, mais alors les parents qui perdent leur enfant dans ces circonstances, ils ne rient plus du tout. Hein. C'est pas une plaisanterie à ce moment-là. Hein. Ah ouais, l'entraînement. C'était pour s'amuser, faute fatale, qui nous poursuit toujours, parce que quand on a vécu ça, jusqu'au moment où nous partirons de l'autre côté, eh bien, ça nous restera en mémoire. Et j'en passe, c'est les meilleurs que je voudrais pas partager avec vous, mais c'est des choses terribles dans la conscience des hommes et la conscience des femmes. Le roi fut attristé, le pauvre. Ah oui, la tristesse d'un homme mauvais, inconsistant, en quête de sensations nouvelles, qui ne recule devant rien pour tuer son âme. Il était attristé, le pauvre. Mais c'est une tristesse sans repentance, comme cela nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, où il nous dit que la vraie repentance est une tristesse selon Dieu, qui nous amène à pleurer sur nos péchés, à pleurer sur notre vie de misère, en disant « Seigneur, je ne peux plus supporter d'être comme je suis impur, je suis mauvais, et je te demande maintenant de me pardonner mes fautes et de me changer et me transformer. » C'est ce qu'on appelle la conversion, et qui sera suivie d'une nouvelle naissance. Vous êtes d'accord? C'est ça? Mais notre brave Hérode, il a des regrets, il a des remords, mais le mot regret et remords, on va sur un cimetière, on voit ça sur toutes les tombes. On voit pas le mot repentance, hein. Quand je m'emporte comme ça, restez calme, hein. Ça fait deux fois que je dis que je vais terminer, mais je vais vraiment terminer, hein. Mais à cause des convives, des chefs militaires, de tous les invités, voilà les serments qu'il avait faits, parce qu'il voulait à tout prix ne pas déplaire et ne pas passer pour un faible. Eh bien, il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il a donné son aval et voilà le pauvre Jean-Baptiste qui va mourir. Vanité mesquine que de vouloir garder son image de marque. Ouais. On avait déjà pris un bon coup, hein. Criminel lui-même, fils de criminel, dynastie des Hérodiens, c'est que du sang. Terrible. Il voulait garder son image de marque? Et pourtant, il avait le choix. Il avait un homme qui était auprès de lui, qui s'appelait Jésus de Nazareth, et il pouvait véritablement, eh bien, vivre une autre vie. Mais il fallait qu'il s'abaisse, et c'est dur de s'abaisser. Qu'est-ce qu'on ne fait pas au regard d'autrui? Pour ne pas perdre la face. Sourire de circonstance, mais à l'intérieur, on n'est pas d'accord. Il ne voulut pas lui faire de refus. Elle était si mignonne, la petite Salomé. On n'allait quand même pas la blesser, la faire pleurer? Pas possible. Parce qu'il est des silences. Tu vois, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu le refuser. Parce qu'il est des silences qui ne sont que de la lâcheté, tout simplement. Alors l'exécution, verset 27. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Il apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Sordide. Oui. Sur le champ, sans délai. Vision d'horreur dans un jour de fête. Parce que normalement, la fête, ça ne devait pas être ça. Hein. Quand la joie se change en dégoût. Et quelquefois, il y a des fins de fête, c'est du dégoût. Où non seulement les gens se sentent sales, vides, honteux, déshonorés, mais tout le reste. À travers des amusements et des divertissements avec lesquels le monde se grise. Mais quand on est grisé, on est ivre. Et quand on est ivre, on comprend plus rien. On ne devrait pas vivre en état d'ivresse. Hein. Encore moins conduire. Et pourtant, il y a des gens qui sont toujours en griserie. Hein, dans un autre monde. Alors, quel secret de satisfaction, parce que je me mets à la place d'Hérodias. Elle a eu à avoir un plaisir sublime quand son ennemi a été décapité. Parce qu'elle se disait, au moins, il y en a un qui parlera plus. C'est vrai que quand on a la tête à côté des épaules, c'est difficile de prononcer un discours. Hein. Ça, c'est certain. Alors, elle a dû savourer cet instant, mais elle pouvait croire enfin qu'il n'y aurait plus d'obstacles désormais à ses amours adultères. Mais c'était pas ce qui s'est passé. Parce que les gens s'imaginent qu'en abattant les barrières, ou en les cassant, en les fracturant, ou en les détruisant, ils seront plus libres de faire que ce qu'ils veulent. Or, le grand jugement qu'un homme puisse connaître, c'est d'être livré à la tyrannie de son cœur et de sa conscience jusqu'à la mort. C'est la leçon que nous avons d'Hérode. Ah oui, il a fait ce qu'il a voulu. Hein. Par faiblesse, certes. Manipulé, certes. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça fait comme l'histoire de Pilate. Vous savez, notre brave Pilate, qui sait pourtant que Jésus est juste, qu'il n'a rien fait de mal. Et alors à ce moment-là, parce que sa femme a eu une vision la nuit, elle vient, on lui apporte un bac avec, il se lave les mains. Et il dit, moi, ça ne me regarde pas. Ça ne l'a pas regardé, bien sûr. Il se défait de ses responsabilités. Mais quand on voit la fin de Pilate, on s'aperçoit que ça l'a suivi jusqu'au bout. Hein. Pilate le traite. Alors, déchéance morale, voire même physique chez certains, que rien ne peut délivrer sinon une chose, c'est la repentance. Il n'y a que ça. Hérode, Hérodias, Salomé, les uns et les autres, dans le palais d'Hérode, il y avait une chose qu'ils ne voulaient pas entendre, c'était la repentance et changer de vie. Et pour changer de vie, il faut changer d'avis. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Dans la mesure où nous aimons, et vous l'avez souvent entendu, et je vous le répète encore ce matin, dans la mesure où on a l'amour de la vérité, et que Dieu nous envoie son esprit de vérité. Autrement, c'est pas possible. Mais faut s'humilier. Faut s'humilier. Alors, il avait raison, notre brave Jean-Baptiste, quand il dira, à un moment de sa vie, plus tôt, il dira, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il avait jamais pensé qu'il vivrait une diminution, même physique. Ouais. Pour que Jésus grandisse, pour que Jésus devienne le roi, le Messie pour Israël, le souverain. Et je ne peux m'empêcher d'écouter les dernières paroles de Jésus à la croix, quand il dira, et ça résume toute notre histoire ce matin, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors on va prier maintenant, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Nous te louons et nous te remercions parce que nous croyons en effet, Seigneur, que le monde, il est ce qu'il est, tu le vois, tu le connais, et pourtant tu l'aimes. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu ne l'as pas laissé sans remède à une maladie qui est une maladie, un mal mortel. Tu nous as envoyé l'évangile, tu nous as envoyé au cœur de l'évangile Jésus, et c'est lui qui est véritablement, eh bien, le sauveur des faibles, le sauveur des puissants, le sauveur des hommes et des femmes qui ont l'amour de la vérité dans leur cœur. Tu nous bénis, Seigneur, ce matin. Tu nous visites les uns et les autres. et accorde-nous toute ta grâce, pour que nous retenions cette leçon, que nous sommes dans un monde qui n'est certainement pas neutre, mais où la force, où il y a une loi qui nous rappelle, mais c'est une illusion, c'est une rêverie, que la loi du plus fort est toujours la meilleure, c'est faux. En effet, la loi du plus fort, c'est celui qui s'abaisse, celui qui s'humilie, et celui qui sait perdre pour gagner. Eh bien, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Tu nous bénis ce matin. Merci pour, c'est vrai, cette tragique histoire. Mais nous croyons, Seigneur, que la tragédie, tant que Jésus ne sera pas revenu sur cette terre pour mettre de l'ordre, et pour instaurer un royaume, son royaume, eh bien, il y aura, en effet, l'ivraie et il y aura le bon grain. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.